journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs, l'émission où vous avez la parole. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Aujourd'hui, nous parlons d'une plainte déposée par des communautés villageoises contre la multinationale Feronia, une société d'huile de palme. Depuis de nombreuses années, des communautés rurales et villageoises réclament la propriété de leurs terres. Tout commence en 1911. L'administration coloniale belge donne à un lord anglais une concession forestière de plus d'un million d'hectares. Ce dernier, aidé par l'armée belge, va utiliser le travail forcé et la répression pour exploiter l'huile de palme. Finalement, c'est la multinationale Unilever qui va hériter des concessions contestées. Et en 2009, le géant de l'agroalimentaire revend sa filiale Plantation et Huilerie du Congo à une société canadienne, Feronia. Depuis, les villageois estiment que les conditions de travail se sont dégradées. Dans les palmeraies, on parle quand même de postes journaliers payés une misère. Mais surtout, ceux-là, les villageois réclament toujours la propriété de leurs terres. Cette entreprise a reçu depuis 2013 180 millions de dollars à titre d'aide au développement. Les villageois ont donc déposé une plainte auprès de la Banque allemande de développement. Alors, quelles sont les chances que cette plainte aboutisse? Nous en parlerons dans quelques instants avec Jean-François Mombia à tout coup. Il est membre de l'association RIAO-RDC qui soutient les communautés villageoises. Pour intervenir, vous exprimer sur ce sujet, posez vos questions, composez dès maintenant le 01 55 07 58 00, 01 55 07 58 00. Exceptionnellement, à cause d'un petit problème technique, pas de message du répondeur. Tout de suite, le JDA.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1. Africa.
Je rappelle le numéro pour intervenir dans le journal des auditeurs, c'est le 01 55 07 58 00. Aujourd'hui, dans le JDA, la plainte de 9 communautés villageoises auprès de la Banque de développement. Elles dénoncent la spoliation de leurs terres par des multinationales. Alors, quelles sont les chances que cette plainte aboutisse? Nous en parlons plutôt tout de suite, sans plus tarder, avec Jean-François Mombia à tout coup, membre de l'association RIAO-RDC qui soutient ces communautés. Jean-François Mombia à tout coup, bonjour.
Bonjour madame.
Merci Jean-François d'être avec nous par téléphone depuis Dakar. Première question, avant de donner la parole aux auditeurs, pourquoi les villageois ont-ils déposé plainte auprès de la Banque allemande de développement alors que c'est Feronia qui est visée par cette plainte?
Ok. La question est bien posée. C'est une plainte, mais je peux vous dire, madame, que c'est une plainte qui va peut-être pas totalement étancher notre soif. Pourquoi je le dis? Puisque la société Feronia, pour nous, nous sommes dans un pays pauvre, comme vous le savez. Le Congo est riche, potentiellement, mais de manière sociale ou en matière de développement, c'est un pays totalement pauvre. La misère a été son exacerbation à tous les niveaux. L'être souci à nous tous, c'est que les investisseurs viennent et que les choses puissent marcher. Nous avons des richesses. À quoi bon de rester sur toutes les richesses là, sur des ingots de diamants, pendant que vous coupissez dans la misère la plus noire? Donc, ça aurait été une très bonne chose qu'une société de fabrication d'huile puisse venir dans notre pays, que nous aussi nous puissions tirer profit. J'ai parlé de soif non étanchée, c'est-à-dire nous avons déposé une plainte auprès de DEJ par rapport aux procédures de plainte de DEJ. Et il reste à savoir si réellement ce sera accepté ou pas. Et quand je parle de plainte de soif étanchée, c'est-à-dire les communautés, j'ai fait ce que je pouvais faire avec mon initiative, les RIAO, bien sûr, mais ça aurait été mieux peut-être qu'on puisse passer par une justice contraignante. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'abus, l'occupation illégale, donc les violations massives des droits des communautés, donc il n'y a rien qu'on fait en termes de développement. Alors, vu tous ces abus-là, des assassinats, des meurtres, de beaucoup de choses, moi-même, je suis victime de beaucoup de choses, je suis en exil à cause de ça, mes collaborateurs, on les a coupés les tendons. Il y a pas mal de choses, madame. En tout cas, comme on dit trop, c'est trop. On a cherché à quel sens se vouer. Et jusque-là, la première opportunité, c'est cette procédure de DEJ. Et nous comptons beaucoup sur ça. Voilà pourquoi nous avons déposé une plainte, c'est-à-dire la plainte, ce n'est pas dans le sens de chercher des avocats, c'est-à-dire nous sommes devant un médecin, jusque-là nous croyons que Dieu est notre médecin, et nous lui présentons tout ce qui ne va pas dans notre corps. Donc ça s'appelle plainte, que dans ce sens-là, il y a tellement d'abus, et par rapport à ces abus-là, nous voulons que notre santé revienne à la normale. Nous voulons que les choses s'arrangent. Si Dieu sera en mesure d'arranger, ce sera une très bonne chose. À ce moment-là, je peux prétendre que la soif des communautés a été étanchée. Voilà.
On entend effectivement les nombreux défis et difficultés où vous êtes confrontés. On comprend que vous êtes à Dakar en exil. Vous avez dit que vos collaborateurs avaient eu les tendons coupé. Ce qui est quand même aberrant dans cette affaire, et on va parler d'autres exemples tout à l'heure, parce qu'on peut parler aussi de Socfin au Cameroun, des diverses plantations de palmeraies ici et là sur le continent. Comment expliquer, Jean-François Mombia, à tout coup, qu'au moment de l'indépendance, finalement, ces concessions passent du Royaume-Uni à une multinationale Unilever? Est-ce qu'il y a une responsabilité des autorités congolaises à ce moment-là? Est-ce que c'est l'État qui n'a pas assez protégé ses ressortissants?
Oui, si nous défendons les droits humains, c'est plus que les choses semblent ne pas bien marcher au niveau de l'État, au niveau de nos dirigeants, on peut le dire. À l'époque coloniale, on peut comprendre que c'était sous le joug colonial qui sont arrivés. Les nègres n'avaient rien à dire, ils n'avaient pas droit à leurs propres biens. Mais après l'indépendance, le semblant de l'indépendance, on peut croire, puisque c'est ça le prétexte qu'ils nous ont toujours présenté. C'est comme si l'indépendance n'a pas été totale. Donc, après l'indépendance, le constat amer, c'est que les choses sont allées plutôt de mal à pis. C'est-à-dire que c'est devenu de plus en plus grave. Et à ce juste moment, Féronia, Unilever est arrivé jusqu'à Féronia. Donc jusqu'à l'indépendance, après la question de notre pays à l'indépendance, c'était la belle zette. C'est cette plantation Unilever au Zaïre. Après Pelzette, à l'arrivée de Kabila, de réseau de Kabila, c'est redevenu PHC et ainsi de suite. Donc, ce qui est connu par tout le monde, c'est que si aujourd'hui nous défendons les droits humains, c'est plus que l'État ne fait pas, ne va à la hauteur de sa tâche. Donc, on ne sait pas. À l'époque du président Mobutu, à l'époque de Pelzette, c'était le jeune frère du président, de la première dame Bobila Dawa, qui fut le président du conseil d'administration là-bas. Et aujourd'hui, c'est parmi les grands actionnaires de cette société, il y a Kikadi Mkaroubi qui est le conseiller diplomatique du chef de l'État. Allez-y comprendre que des personnes qui sont censées nous protéger puissent être complices d'une société comme celle-là. Une société vraiment, quand vous regardez les maisons qui construisent pour les travailleurs, pour quelques travailleurs qui ont bénéficié des maisons, puisqu'il n'y a même pas de maisons pour les travailleurs. Mais vous sentez vraiment que c'est juste une maison, c'est un nid d'oiseau presque, juste une chambrette et un petit salon. L'homme là n'est pas censé, ses enfants ne sont pas censés passer dans une chambre, ils sont donc obligés de passer nuit par exemple au salon. Et il n'a pas de parents, celui qui travaille chez Féronia n'a pas de parents, ne peut pas recevoir ainsi de suite. Donc voilà un peu, c'est cette complicité là avec l'État qui fait qu'aujourd'hui nous on puisse prendre la relève et qu'on se retrouve en exil. Est-ce que le Congo, c'est un pays de Féronia? Non. Le Congo, ce n'est pas le Canada d'outre-mer non plus, non. Mais si j'ai quitté là-bas, j'ai eu la pression de qui? Je n'ai pas vu Féronia, je n'ai jamais vu Rabi Soud, je n'ai jamais vu tout ce qui se trouve à Londres. Mais ce sont nos propres frères, c'est-à-dire les policiers, les colonels, les ministres qui sont utilisés pour nous traquer. Donc, afin qu'on ne puisse pas dénoncer les mal, pour ne pas parler, qu'on laisse les esclaves, les morts enterrer leurs morts, et que les esclaves coupissent dans la misère, la plume, continuent avec leur esclavage. Donc, des tâches énormes, plein de choses à faire, il n'y a pas de salaire. Allez-vous comprendre, à l'heure actuelle, qu'on nous dise qu'ils n'ont hésité, sur 3500 travailleurs, il y a 1500 travailleurs qui n'ont pas été payés, puisque l'ordinateur avait oublié leur nom. Pendant que les gens ont travaillé durement 80 à 120 régimes de palme par jour comme tâche. Il y a des femmes qui sont là pour des platines au niveau de pépinières, 500 à 600 platines par jour. Et il faut bien arranger par jour. Mais une personne comme celle-là, à la fin du compte, au lieu de lui donner ne plus que les $20 qu'on leur donne, fort malheureusement, on ne donne rien. On lui dit que non, écoutez, La raison est que l'ordinateur, c'est sophistiqué, c'est presque un nouveau dieu aujourd'hui. Tu as bien travaillé.
On va revenir, Jean-François, dans quelques instants sur les conditions de travail dans les palmeraies. On voit bien qu'on est loin du salariat et qu'on est plus de l'exploitation. On va écouter dans quelques instants Vécam qui nous appelle justement de la RDC. Et puis on a bien compris que surtout qu'il y avait des dirigeants qui étaient membres des différents conseils d'administration, en tout cas de Feronia, de cette société canadienne. Et il y a également, vous l'écrivez dans votre communiqué, des agences de développement comme l'AFD qui sont membres de ce conseil d'administration. Il y a Sob Edribris qui nous dit « Les dirigeants africains sont en train de mener leur peuple à l'abattoir en signant des contrats léonins qui pèsent sur leur population. Les terres arables sont aujourd'hui un enjeu stratégique majeur du XXIe siècle à cause de la croissance démographique. Il faudra nourrir 7 milliards d'habitants en 2050. Mais nos dirigeants n'en ont aucune conscience. Il est temps de remplacer cette élite corrompue inconsciente qui ruine notre continent. On est passé d'une colonisation à une autre, finalement. Vécam, bonjour.
Bonjour, madame Stéphanie. Monsieur Vécam, depuis Lubumbashi, en RDC.
Bienvenue, Vécam, justement, depuis Lubumbashi, en RDC. Vous avez entendu, je crois, la situation que décrivait Jean-François Mombia à tout coup, au sujet des palmeraies, des concessions d'une part qui sont volées, tout simplement, et de d'autres, les conditions de travail dans ces palmeraies. Vous connaissez un peu, vous avez déjà vu ça, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup du côté de Lubumbashi, mais est-ce que ça vous parle?
Non, vous dites, je ne sais pas si bien, si vous pouvez revenir sur la question.
Je vous demandais si il y avait des palmeraies du côté de Lubumbashi, mais je ne crois pas. Et si ces exploitations comme ça, le vol des terres et ces conflits fonciers étaient quelque chose de familier qui vous parlait.
Effectivement, les palmeraies, juste là, sur la ville de Lubumbashi, ce n'est pas du tout beaucoup exploité, développé. Peut-être qu'il y a de petites concessions. En fait, nous tenons d'abord à dire monsieur l'invité, parce qu'en l'écoutant, quand même, il a démontré de quoi est-ce qu'il fallait faire. En fait, dans notre pays, les compagnies occidentales qui arrivent avec tel ou tel projet, c'est bien, nous les accueillons en fait avec joie. Soi-disant, ça va aussi aller dans les profits de la population. Mais après quelques jours d'exploitation, ce ne sont plus ce n'est plus la population qui est bénéficiaire de produits finis, mais c'est plutôt ces gens-là qui viennent. Ah, des fois, on donne un travail lourd. La population est en train d'exercer un travail lourd, et ce travail lourd qui ne produit absolument rien, l'homme est exploité par un autre homme. Vraiment, c'est un peu critique. La plainte a son droit. Ici, les populations villageoises de cette partie ont fait la plainte à l'intention de cette compagnie. C'est tout à fait normal. Il a fallu peut-être revoir les conditions de vie de tous ces gens-là, revoir la rémunération, voir comment est-ce qu'on peut motiver tout le monde à bien travailler. Je sais que si peut-être nombreux souhaitent vivre l'Occident, c'est par rapport aux conditions de vie. Vous trouverez, on sait respecter les droits de tout un chacun. Un travailleur doit avoir droit à son salaire. On sait que c'est après avoir travaillé que l'on doit mériter le salaire. Les choses graves, il y en a qui sont exploitées et le système d'ordinateur même. On sait que l'ordinateur doit garantir. L'ordinateur doit garantir les secrets du travail, les secrets de l'entreprise. Comment ça fait-il après avoir effectué un temps de travail et à la paye, il y en a qui sont omis. On dit l'ordinateur a omis certaines personnes. Bon, c'est un peu compliqué. C'est ça, c'est qui justifie que l'homme noir est plus exploité. Il n'est pas encore indépendant sur ce plan-là, sur tout le plan développement, sur le plan économique. L'homme noir est toujours dépendant et il est toujours exploité, deux fois par un autre homme noir qui se voit plus fort que celui-là. Par contre, on doit reconnaître les droits de tout un chacun. Et à ce niveau-là, je trouve que ça peut laisser tout le monde à l'aise de bien travailler partout où il peut se retrouver. C'est juste ça, ma contribution à cette émission. Nous encourageons cette population villageoise d'avoir déposé cette plainte. Soit arrêter avec la compagnie, soit de voir les conditions de vie de ces citoyens, pour vivre que chacun se sentir quand même à l'aise dans tout ce qu'il est en train de faire. Il y en a qui ont des foyers, il y en a qui ont des enfants scolarisés, il y en a qui ont peut-être des charges, qui n'ont pas de parcelles, l'eau propre. Ah, des fois, il faut, en quelque sorte, chercher des maisons à louer. Bon, ça doit peser sur le poids de ces gens-là. C'est ce que certains, peut-être, se donnent maintenant à des actes de banditisme. Par après, c'est nous, simple population, nous allons encore commencer à déplorer. Voilà, il y a eu ça, il y a eu ça. Et ça peut encore occasionner les vols dans cette même entreprise ou dans cette même compagnie-là. En fait, que ces gens, les responsables de la compagnie, fassent tout pour revoir les conditions de vie des...
On comprend bien, oui, VKM. Alors justement, c'est ce qu'on va parler, VKM qui dit finalement, voilà, il faut au moins... revoir ses conditions de vie. Je vous remercie, hein, VKM, hein, depuis le Katanga, Lumumbashi. Jean-François Mombia, à tout coup, je reviens vers vous. VKM nous dit qu'il faudrait améliorer les conditions de vie, il faudrait que la multinationale s'engage dans des projets socio-économiques. Mais c'est ce qu'elle a fait, notamment il y a un an. Hein, Feronia s'était engagée à un certain nombre de projets et Feronia a reçu, je crois, je l'ai dit en début d'émission, 180 millions de dollars à titre d'aide au développement par différents banques de développement, dont la Banque allemande de développement. C'est d'ailleurs pour ça que les villageois portent plainte auprès de la Banque allemande de développement. Comment expliquer que Feronia bénéficie de fonds de l'aide au développement? Et est-ce que vraiment Feronia, Jean-François Mombia, à tout coup, fait ces projets de socio-économiques? Et qui vérifie la réalisation de ces projets?
Et je remercie beaucoup mon frère qui vient d'intervenir à partir de Lumbashi. Et pour votre information, il y a aussi Bolloré au Congo. Et lorsque Unilever a vendu ses terres et ses plantations, ils ont vendu une partie à Mapangu là-bas. C'est Vincent Bolloré qui est là-bas. Et là, chez nous, donc Équateur et Province orientale, la Chope actuelle, c'est Unilever, c'est Feronia. Donc, l'histoire des banques de développement, franchement, madame, pour moi, c'est un paradoxe terrible. On ne savait même pas. Nous, lorsque le régime Mobutu est parti, Feronia est venu, on se disait carrément que la société, puisque beaucoup de sociétés, quand le président Mobutu est parti avec les siens, il y a eu beaucoup de sociétés qui sont allées en faille, Kilomoto, ainsi de suite, aujourd'hui réhabilité quand même. À l'époque, nous, on se disait carrément que c'est une société pauvre, donc. Ce sont les Unilever est parti, tous ceux qui étaient avec Mobutu sont partis là, ce sont déjà qui se Batanga, Madame Kasongo, peut-être, qui sont à l'époque DG, et ce sont eux qui sont en train de se débrouiller. Les Congolais essayaient de remonter un peu la pente pour se retrouver derrière les plantations, le fruit des palmiers. D'accord. Mais c'est en 2014 que j'apprenais pour la première fois l'histoire de DFI, les agences de développement occidental, Bio, DEJ, des sites américains, ça et là. Parcours, j'étais à Paris, on a parlé avec eux. C'est-à-dire, c'est vraiment un reste, un paradoxe très grave. Nous, on pouvait croire qu'on pouvait imaginer que c'était à faillite. Or, ils reçoivent des fonds colossaux. J'avais posé la question au président du conseil d'administration du Bio, M. Luc. J'ai dit, est-ce que vous donnez cet argent à Feronia, l'aide de développement que vous donnez là? C'est de l'argent donné pour augmenter le capital de Feronia ou c'est de l'argent donné pour améliorer les conditions de population des villes qui sont, les communautés qui sont affectées? Le médecin me dit non, on ne donne pas pour le capital de Feronia, on donne ceci, une aide au développement. Je dis alors le développement, c'est quoi quand il n'y a pas d'école?
En fait, les agences de développement sous-traitent à Feronia l'aide au développement, c'est bien ça, les projets de développement.
Voilà. Ça ne passe pas par nous.
Laquelle ne les effectue pas?
Oui.
Voilà, alors, laquelle ne les réalise pas?
Ce travail-là, l'argent, on peut dire, entre guillemets, jusqu'à la preuve du contraire, l'argent est totalement détourné. Moi, ici, je pouvais m'imaginer qu'en effectuant le voyage que j'ai effectué en 2017 en Europe, je serais l'ami de DFI. C'est-à-dire, depuis 2009, on a volé jusqu'à 2017, un Congolais, un témoin de communauté, est rescapé, sorti, est arrivé chez les DFI pour leur dire de la vérité de ce qui se passe sur place. Ça m'étonne aussi. Je parle d'un paradoxe, s'il vous plaît, madame. Nous, ici, les petites ONG, les petites organisations, quand nous recevons des petits financements, UNICEF, ça et là pour construire. Moi, je suis arrivé, et Dieu merci, à construire 48 écoles au Congo. Hein, je suis pauvre, très pauvre, mais avec le financement de tous ces gens-là, qui ne peut même pas atteindre 100 000, j'ai conçu 48 écoles en 10. Mais ils reçoivent des millions et des millions, mais sur le terrain, il n'y a rien. Et elles, les agences, là, elles, ne font même pas le suivi. Depuis 2009 jusqu'à 2018, aujourd'hui, que nous, on a déposé la plainte. Voilà là où on les soupçonne aussi, ces agences-là. Voilà où on peut parler de détournement. Voilà là où nous cherchons à quel point se vouer. C'est-à-dire, même la justice, c'est une justice européenne, madame. Ce que je vous le dise, est-ce qu'ils vont vraiment nous rendre la vraie justice? Puisqu'il y a mort d'homme, des travaux forcés, il y a plein de choses. Nous, si on est en exil, des mauvais salaires, des médiocres, salaires médiocres. Est-ce qu'on va vraiment nous rendre justice? La plainte sera même acceptée. Voilà.
On va revenir, Jean-François Mombia, à tout coup. Je vais revenir vers vous avant la fin de l'émission, justement, pour vous nous dire un peu les chances que cette plainte aboutisse. Et vous parliez tout à l'heure de justice contraignante. La plainte que vous avez déposée ne sera sûrement pas dans le cadre d'une justice contraignante. J'allais vous demander, est-ce qu'une justice internationale, comme la Cour pénale internationale, peut être une solution aussi pour faire valoir les droits de ces villageois? Avant cela, on va donner la parole à Hosanna qui nous attend depuis un bout de temps, depuis le Tchad. Hosanna, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tout le monde.
Bonjour Hosanna, j'étais contente de vous entendre sur une radio concurrente dans une émission similaire il y a quelques jours. C'était bien vous?
Oui, c'est bien moi.
Bon, mais restez fidèle à Africa numéro 1 quand même. Hein.
C'est ça.
Hosanna, on vous écoute, vous dites que les autochtones ont le droit de revendiquer leurs droits, mais est-ce qu'ils ont les moyens et la force pour revendiquer leurs droits?
Non, tout d'abord, moi je pense tout simplement que c'est la colonisation qui continue comme ça. Et j'ai l'impression que ces multinationales font, c'est comme s'ils sont sur une terre conquise. Et ça, c'est avec la complicité de nos soi dirigeants. Sinon, moi, je pense que les autochtones ont le droit de revendiquer si leur intérêt n'est pas pris en compte. Parce que parfois, il y a trop de conséquences et ces villageois, c'est eux qui subissent. Donc, normalement, ces multinationales qui exploitent ou qui exerce dans nos zones ici en Afrique doivent normalement tenir compte des intérêts, des avantages des villageois. Sinon, bon, comme nos autorités aussi, ces multinationales déversent des sommes colossales pour nos autorités. Eux, ils ne disent rien. Ils laissent la population à la merci de Dieu. Donc, moi, je pense que comme vous voyez ici au Tchad, on a le même problème avec les sauts qui exploitent le pétrole tchadien. On arrache la terre des cultivateurs et avec les conséquences qu'on voit partout. Et si on ne tient pas compte, on ne vient pas en aide envers ces autochtones. Moi, je pense qu'ils ont le droit de révolter. Donc, c'est maintenant autour de ces multinationales d'essayer de voir leur stratégie, d'essayer de voir leur manière et de changer aussi leur attitude afin que ces autochtones aussi tirent profit. Sinon, je pense que c'est vraiment anormal, mais comme on est en Afrique, on pense que ça se passe comme ça.
On a l'impression parfois que l'injustice est normale, malheureusement, et d'où l'intérêt aussi peut-être de cette émission, c'est de dire qu'il n'y a pas de fatalité. On va écouter Romain qui nous appelle. Romain, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie.
Bonjour Monsieur Romain. Vous vouliez revenir sur les responsabilités politiques, je crois, vous?
Oui, en tout cas, bon, je soutiens déjà ce que vient de dire Hosanna tout à l'heure, parce qu'il dit vrai, les multinationales permettent tout comme ils veulent en Afrique, ça c'est vrai. Mais je voulais revenir aussi à notre invité, parce que beaucoup de gens mélangent un petit peu, et c'est quand même très grave. Et déjà, les PLZ dont il parlait tout à l'heure, ça s'appelait PLC, ça venait du Congo, du Congo Kinshasa, existait bien avant les Zaïre. C'est Mobutu qui a amené le mot Zaïre.
Le PLC, c'est plantation, c'est PHC, plantation et huile du Congo, c'est ça?
Voilà, et puis c'est devenu PLZ après. Mais il faut quand même, parce que quand même, c'est très important, on mélange tout, on mélange Kabila père, Kabila fils, on mélange Mobutu d'avant et Mobutu d'après. Mobutu a pris le pouvoir, et bien tout était, on payait les employés. Mon père y a travaillé, il était comptable, on y payait les employés.
Et les conditions de travail étaient dignes de ce nom? Correct.
Donc c'était quand même, quand même, on peut dire correct, hein, parce que quand même au niveau de l'Afrique. Et par la suite, quelles sont devenues ces entreprises une fois Mobutu arrivé au pouvoir? Et petit à petit, Moi, je me rappelle, BAPLZ a été complètement abandonné. On ne produit plus d'huile de palme, on commence à importer l'huile de palme de Malaisie. Parce que la corruption, Mobutu a porté la corruption, a détruit les valeurs. Ça, on ne doit jamais oublier. Il a apporté dans un premier temps.
À l'époque, c'était Unilever qui avait la pêche.
Unilever. Voilà, Unilever au Congo. Donc voilà. Donc, donc on ne peut pas dire que c'est quand même de la partie Zaïre. Non, d'abord, de la partie du Congo. Et c'est à partir de quand qu'on ne paye plus des gens.
Apparemment, c'est quand même à partir de 2009 quand Feronia.
Non, madame. Je suis désolé que beaucoup de Congolais, on peut encore débattre. Dans les années Mobutu, beaucoup de gens ont fui. Beaucoup de gens sont venus ici en Europe dans les années 83.
Vous dites à partir de quand les conditions de travail se sont dégradées, Romain?
Détériorées et les usines fermées, les usines après les autres, ça monte bien dans les années 80. Et c'est Mobutu qui était au pouvoir et on ne payait plus les gens.
Bon, c'est très clair. Cela dit, l'arrivée de Joseph Kabila et de son père, Laurent Désiré, apparemment, n'a pas changé grand-chose vu les conditions actuelles. Et c'est en 2009 que Unilever a revendiqué sa filiale à Feronia. Jean-François Mombia, à tout coup, peut-être un regard ce que vient de dire Romain sur, effectivement, selon les dirigeants, la gestion n'est pas la même.
Oui, je donne raison, mon frère. Ici, le problème, je pense, c'est le problème qui est au centre, ce n'est pas le problème des appellations, c'est parti de HB, je suis né là-bas. Oui, les riz de Congo belge, tout ça, PLC, PLZ, ainsi de suite. Il y avait à Mapangu, il y avait à Ebunda, il y avait partout. Il a raison de dire qu'à un certain moment, à l'époque de Mobutu, les plantations d'Ebunda ont été achetées par les généraux Maélé. Donc, à Lusanga, Lusanga s'appelait à l'époque coloniale les Verviers. Le verbier a été acheté par la Takizala. Donc, c'était ça. Mais ici, on est un peu centré puisqu'on n'a pas tout le temps de tout dire. Merci. C'est vrai que je dois vous dire franchement qu'à l'époque de Président Mobutu, à l'époque de PLZ, c'est une société habituée à payer très mal les travailleurs. Néanmoins, on prenait au moins soin des travailleurs d'une autre manière. Il y avait des cantines pour les travailleurs. Il y avait beaucoup de choses, magasins à agents pour les agents, où on vendait à vil prix presque tout afin de permettre à ceux qui étaient mal payés de se retrouver avec leurs maigres salaires. Alors, c'est un peu ça. Et il y avait des hôpitaux où on soignait très bien. J'ai subi mon intervention chirurgicale en 1981 à l'hôpital de Pézet Lokoutou. C'était presque de l'Europe. C'était bien. Ça, c'est des terreurs de mal. Ça va de mal à plus à l'arrivée de Feronia en 2009. Ça, c'est vrai que quand le président Mobutu est parti, en tout cas, c'était presque en faillite la société, hein, c'est vrai. Et maintenant, moi, en 2010, j'ai bénéficié d'un projet. J'ai été financé par une organisation israélienne. Pour construire une école en faveur des Pyrénées là-bas. C'était monsieur, madame Fanny et puis professeur Rony Berger. Nous arrivons sur le terrain avec les partenaires. La société dit on ne peut pas entrer ici avec des caméras. C'est interdit. On a commencé même le travail déjà. Tout était là. 90 000 euros en moule. Ils ont tout détruit. C'est là où ça a commencé à sentir un peu très mal. Donc, ça va de mal en pis. À l'époque, c'était pas un paradis. Au Congo, on n'a jamais connu de paradis avec nos dirigeants. Mais actuellement, c'est très grave. Mais ce qui est encore pire, c'est quoi? L'occupation qui est là, ça continue à être une occupation illégale. Malgré, en dépit du fait que quand même le monde évolue en termes de démocratie. Illégal, sans papier, il n'y a rien. L'unique document qui a été signé entre M. Lokoutou et Unilever, c'est un document d'un demi hectare. On était avec une mission parlementaire allemande là-bas. J'ai remis le document à un assistant de ce parlementaire qui est allé avec moi au Congo. Donc, le problème, c'est que le paradoxe, c'est ce qui nous inquiète, c'est que aujourd'hui, on commence à torturer les travailleurs. On tire à bout portant, on tue déjà les membres des communautés. Deux pygmées assassinés à Boteka en 2015. Et on a tué encore une femme à 2007, à 2018.
Est-ce qu'on vous tue sur vos propres terres, si je comprends bien, Jean-François Mombia? Mombia, à tout coup, on arrive à la fin de cette émission. Une réponse courte, Jean-François. Est-ce que vous êtes optimiste sur l'aboutissement de cette plainte? Oui ou non?
Mon désir le plus ardent, mon souhait le plus ardent, c'est que la plainte aboutisse. Comme l'a dit les frères, le souci pour nous qui nous anime, c'est pas qu'on puisse chasser Feronia. Non, non, déterrer le diable. Non, non, non. Tout ce que nous voulons d'abord.
C'est le respect des conditions de travail, de la dignité humaine, Jean-François Mombiatou, qu'on a bien compris. Je suis désolé, Jean-François, je vous presse un peu et je vous coupe un peu, mais vous l'entendez, hein, on arrive à la fin de cette émission. Je vous remercie beaucoup, hein, Jean-François Mombiatou, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes représentant de l'association RIAO RDC en exil à Dakar, au Sénégal. Merci à tous de votre participation. Demain, nous parlerons de la désignation de Martin Fayoulou comme CUO, candidat unique de l'opposition. C'est en République démocratique du Congo. À demain.